Espace hybride, ville en transition, une émission en partenariat avec Bouygues Construction sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde proposée par Bouygues Construction. Ensemble, nous allons parcourir les enjeux actuels de la ville et ses évolutions avec un sujet crucial, l'hybridation des usages. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir durant ces trois quarts d'heure de table ronde. Vous le savez en tout cas, la ville d'aujourd'hui est confrontée à de nombreux défis. L'urgence écologique nous pousse à réduire notre empreinte carbone, à stopper l'étalement urbain, à préserver les ressources et les espaces naturels. Et en parallèle, bien évidemment, nous avons besoin de suffisamment d'espace pour répondre aux enjeux démographiques, pour vivre en harmonie sociale, bref, pour permettre les nouveaux usages et l'évolution des modes de vie. Alors, on se trouve face à une injonction contradictoire, avoir plus d'espace en s'étalant moins, eh bien, peut-être que le temps dans ces conditions constitue une ressource insoupçonnée. De nombreux espaces de la ville sont aujourd'hui sous-utilisés, on va le voir. Alors, comment mieux penser nos bâtiments, nos espaces publics, les projets urbains? Comment refaire la ville sur la ville? Quelles sont les pistes de solution? Faut-il transformer l'existant ou bien réhabiliter ou parler de réversibilité pour effectivement explorer ces pistes de solution? Quatre experts sont avec nous en plateau. Virginie Allondi, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directrice prospective de Bouygues Construction. Vous allez aborder la démarche menée sur l'intensification des usages et on le disait, comment refaire la ville sur la ville. À vos côtés, on accueille Fabrice Bonifay. Bonjour Fabrice.
Bonjour Fabrice.
Directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Vous allez nous parler, vous, du BHEP. Alors, beaucoup d'acronymes, on va essayer de tous les traduire au fur et à mesure. C'est le bâtiment hybride à économie positive. Et je rajoute que vous êtes l'auteur de l'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Vous avez déjà évidemment planché sur ces sujets. Gérard Ledetti est avec nous. Bonjour Gérard.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur général délégué de Link City France. Vous allez aborder le sujet des projets réversibles, la transformation des friches. On verra avec un quartier spécifique, le quartier de la Maillerie, mais aussi bien d'autres exemples. Et ce ne sont pas des projets, ce sont vraiment des choses qui sont actuelles et qui existent. Et tiens, justement, un très bon exemple, on est en compagnie de Bastien Lebette. Bonjour Bastien.
Bonjour Fabrice.
Bienvenue, vous êtes directeur général de Garage. Voilà, comment faire sur un même lieu des bureaux, un magasin, un restaurant et puis quelque chose qui vit et qui change tous les jours, selon l'heure et le jour de la semaine. L'alternance des usages, vous le vivez au quotidien. Vous allez nous en parler dans quelques instants. On démarre tout de suite, place évidemment à Virginie, avec cette question. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette table ronde, Virginie. Elle fait suite à un formidable travail. Votre cahier de tendance, attention déjà, 9e du nom, espace hybride, ville en transition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, espace hybride, ville en transition, vous l'avez évoqué. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est refaire la ville sur la ville. C'est tout ce qui tourne autour du recyclage urbain. Donc, comment mieux utiliser l'existant. Et donc, c'est vraiment une démarche qui a été menée pendant près d'un an avec toute une communauté, énormément d'acteurs de la fabrique de la ville avec des profils pluridisciplinaires. On a aussi bien travaillé avec, évidemment, des urbanistes, des architectes, des promoteurs, mais aussi des institutionnels, des chercheurs, des startups, des associations, des universitaires. En tout cas, toute cette communauté, c'était ça vraiment la force de la démarche, c'est toute cette communauté qui a travaillé autour d'enjeux communs pour refaire la ville sur la ville et mieux exploiter l'existant. Donc, on a mené différents ateliers, webinaires, on a eu beaucoup de retours d'expérience et d'interventions inspirantes. Et c'est ce qui a donné lieu. Donc, vous pouvez retrouver Espace Hybride Ville en Transition, c'est en accès libre sur Internet, aussi sur le blog de Bouygues Construction. Et surtout, voilà, on partage énormément d'initiatives, de benchmarks, d'interviews aussi très inspirantes.
Exactement, avec plusieurs parties. De nouveaux défis urbains à relever, vous les listez, les pistes d'action, transformation, réversibilité, mixité et chronotopie, nous allons en parler. Et puis, récit du futur, on verra si on a le temps. La ville, des scénarios pour la ville de demain, ville évolutive, ville en partage ou ville autonome, c'est vraiment passionnant, aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est très agréable à lire. Et donc, c'est complètement gratuit, c'est sur le site, on le rappelle. Alors, Virginie, un des sujets abordés est la sous-utilisation de nos bâtiments. Les bureaux, mais aussi des bâtiments publics qu'on connaît tous, les collèges, les lycées qui sont utilisés à quoi 30%
du temps, à peine. Finalement. En fait, on est parti effectivement de ce constat très simple, c'est que finalement, le taux d'utilisation des bâtiments était était très faible, puisque pour les bureaux, en fait, on a un taux d'utilisation en moyenne de 30 à 45%, et ça, c'était avant la crise sanitaire. Mm-hmm. Les établissements...
Ah oui, c'est encore baissé.
Voilà, c'est encore baissé. Les établissements scolaires, on est plutôt à une vingtaine de pourcents. Si je prends l'exemple des cours de récréation, c'est 7%. Finalement, c'est vrai que les écoles, on n'en profite pas le soir, ni les week-ends, ni pendant les congés scolaires. Les cours de récréation pourraient très bien être ouvertes aussi aux habitants, aux riverains, le week-end. Donc, finalement, comment pour répondre à cette urgence écologique et concilier aussi les aspirations sociétales, comment mieux exploiter tous ces bâtis. C'est vrai que la ville recèle vraiment énormément de lieux sous-exploités, de lieux délaissés, de lieux oubliés. Et puis, donc, ce qui nous invite aussi à agir rapidement, notamment pour répondre à cet enjeu que vous connaissez tous du ZAN, du zéro artificialisation nette. Juste pour donner un chiffre, c'est vrai qu'en France, on a quand même 20 à 30 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Hein. On est quand même le plus mauvais élève au niveau européen. Et c'est surtout que ce chiffre, il faut le mettre en relation finalement de cette artificialisation, elle augmente 4 fois plus rapidement que la population. Enfin, elle a augmenté 4 fois plus rapidement que la population depuis 1981. Donc, on voit bien que là, il y a véritablement un enjeu et une urgence à repenser nos modèles autour de la fabrique de la ville et donc de faire la ville autrement.
Ouais, étonnant, ces chiffres, on retient. Hein. On est mauvais élèves donc, de l'Europe. Alors, peut-être qu'on a de la place par rapport aux autres, quoique. C'est surtout qu'on entend souvent, voilà, c'est les centres commerciaux qui mangent de la surface. C'est bizarre parce que dans le même temps, on a l'impression, et on dit tout le temps, que les gens sont très appétents à habiter la ville. Comment ça se fait qu'on continue comme ça à se déverser et artificialiser?
C'est tout le sujet du périurbain, de l'étalement urbain. C'est vrai qu'on a eu pendant des décennies en fait tout un modèle fordiste avec aussi tous ces sujets de bâtiments monofonctionnels. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est vraiment urgent de changer de modèle, d'apporter de la mixité, d'optimiser l'existant, d'avoir des services de proximité, de s'ouvrir sur son quartier et finalement de revenir vers ce modèle dont on a beaucoup parlé de la ville du quart d'heure, mais qui est vraiment le sujet de la ville des courtes distances et des proximités pour limiter, entre autres, la mobilité et ce sujet d'étalement urbain et préserver les espaces naturels.
Ouais, une première réaction, Fabrice Bonifay, je voulais hocher la tête sur la ville quart d'heure, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'elle est possible partout? Est-ce que c'est une solution?
Ça, c'est sûr que c'est une solution, hein, parce qu'on, compte tenu de la contrainte physique qui va s'imposer à tous, là, en France et à l'étranger, il va falloir qu'on aille vers plus de mixité, comme dans le temps, en fait, hein. On a séparé les villes pendant très, très longtemps avec les zones où on dort, les zones où on travaille, les zones où on fait les courses. Bon, avec des mouvements pendulaires monstrueux pour aller d'un endroit à l'autre tout au long de la journée. On voit bien que c'est pas durable, c'est même pas soutenable, c'est même pas souhaitable, et les gens en ont ras-le-bol de se balader comme ça toute la journée. Et donc, il faut retrouver le bon sens, mais en utilisant, bien sûr, le meilleur des technologies d'aujourd'hui, donc et le bon sens, c'est d'avoir des villes plus mixtes, c'est-à-dire avoir des quartiers où on peut à la fois faire ses courses, travailler et dormir. Donc ça se dit, mais pourquoi on a perdu ce bon sens? Pour plein de raisons, on va pas refaire l'histoire, sauf qu'on en a plus beaucoup de temps maintenant pour inverser la tendance et revenir donc à des villes un peu plus en phase avec les aspirations des gens, déjà d'une part, mais aussi avec la pression des contraintes physiques qui s'imposent à nous, donc décarboner le plus vite possible et puis utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ressources minérales. Et dans nos métiers, hein, 50% des ressources minérales sur cette planète, c'est les métiers du BTP. Donc, on a vraiment à balayer devant notre porte si on veut répondre à l'enjeu.
Oui, et on va voir justement que ce sont des solutions qui sont prises à bras-le-corps, en tout cas par des groupes tels que Bouygues. Les pistes, justement, pour mieux utiliser ces actifs avant de continuer l'artificialisation, on sent en plus que c'est la fin de la récré. Là, hein.
Oui.
L'artificialisation, elle est contrainte. Dans beaucoup de mairies, c'est un stop un peu ferme. Les pistes de solution commencent avec la transformation. L'idée est de reconstruire la ville sur la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle notamment des friches.
Effectivement, il y a un gros potentiel avec toutes ces friches industrielles, notamment à raviver, hein, leur redonner vie. On recense quand même plus de 250 000 friches en France. Et donc, on a quelques beaux exemples justement qu'on peut partager, notamment au niveau de Link City, que ce soit avec la maillerie ou encore les fabriques. Donc je vais laisser la parole à Gérard pour en parler.
Gérard Le Détit.
Oui, ben tout à fait.
Vous avez un exemple concret.
Nous avons plusieurs exemples, mais je voudrais dire aussi que la France a quand même pris le sujet il y a quelques années, en se disant qu'il fallait quand même réfléchir à ne plus urbaniser. Et il y a eu un lancement, moi je le situe en 2015, au moment de l'Institut de la Ville Durable, où il a été décidé que les acteurs privés et les acteurs publics pouvaient travailler ensemble pour innover et construire la ville. Et je pense que ça a été le point de départ de ce que nous faisons aujourd'hui. Et 5-6 ans plus tard, on a des preuves concrètes. Et donc à chaque fois, il s'est agi de travailler sur des friches industrielles ou des friches commerciales. Et donc, on a un exemple effectivement très concret à Lille, à Villeneuve-d'Ascq exactement, où nous avons retravaillé sur une friche industrielle des Trois Suisses, sur un projet de plusieurs hectares. Où les Trois Suisses exerçaient leur activité. Et nous avons pris possession de ce site-là.
On précise hein, aux plus jeunes, peut-être, les Trois Suisses, un site historique voilà, de vente à distance.
C'était avant l'Amazon français.
L'Amazon français, ouais, c'était. Oui, alors voilà, c'est en tout cas le catalogue, le fameux catalogue qui parlera aux plus anciens.
C'est bien ça, ouais,
voilà.
Bien
et donc, préciser. Donc, bah,
donc on s'est réapproprié ce site industriel pour y développer un nouveau quartier. Donc on parlait de la ville du quart d'heure. C'est un quartier complètement mixte où aujourd'hui on a développé du logement locatif social, du logement locatif libre, des résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées. On a également développé un programme hôtelier, des bureaux. Et puis, une nouvelle génération de surfaces commerciales, parce que ce projet, nous le faisons en collaboration avec l'entreprise Nood, qui est une filiale du groupe Auchan. Et nous avons aussi imaginé donc ces nouveaux espaces commerciaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un quartier qui est en pleine construction, et on voit déjà les premiers assemblages qui se font sur un quartier où on peut vivre, travailler et se divertir.
Ouais, comment c'est pris, justement, par la population? Là, c'est le renouveau d'un quartier, en fait, qui était délaissé au cœur de la ville, en fait.
Alors, tout à fait. Et on s'est attaché aussi à recréer une adresse très vite. C'est-à-dire, en prenant position sur ce site-là, on a travaillé sur de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'avant même que le projet ne prenne forme, que la construction ne démarre, pendant toutes les phases d'études, nous avons réutilisé les bâtiments existants pour y recréer une activité. On a recréé un estaminet couleur locale. On a aussi construit le musée des activités des Trois Suisses, ce qui a donné une adresse, qui a permis aux riverains de s'approprier à nouveau le quartier. Un chiffre au moment de la fête de la musique, on a eu jusqu'à 1000 personnes présentes sur le site pour venir voir un peu tout ce que l'on faisait. Et en même temps, ça sert de vitrine au futur projet.
Donc le quartier de la Maillerie, Villeneuve-d'Ascq, on peut donc aller voir. Autre exemple, là, dans Paris?
Alors, dans Paris, on a un exemple qui... on est plus sur de la revalorisation de friches urbaines, mais on est plutôt sur la fabrication de la ville sur la ville, mais au sens propre du terme. On a un projet dans le quartier du 18e arrondissement, le quartier Béillard, où la RATP avait une problématique. Elle a un centre de remisage de bus actuel qui n'est autre qu'un parking aérien en plein cœur de la ville. Et nous avons proposé de construire une dalle sur ce parking aérien pour développer au-dessus tout un quartier, logement, co-living, bureau, et également une dalle paysagée. Donc, d'accord. Ce qui fait qu'on a préservé l'activité du site.
Donc, qui continue à exister, mais qui était à ciel ouvert.
Exactement.
Et vous construisez au-dessus.
Voilà. Donc, le projet va démarrer en travaux dans quelques mois. On l'a à l'image on voit un quartier qui est vraiment, on a redonné de la place à la nature. Et c'est vraiment l'exemple typique de la reconstruction de la ville sur la ville.
Sans empêcher l'activité finalement, l'activité de base. On parle aussi beaucoup, Virginie, de tout ce qui est les fermes urbaines qu'on pourrait avoir hein, dans la ville de demain, dans des sous-sols de parking. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà qui prennent forme?
Oui, il y en a qui existent. Il y a un exemple que j'aime bien partager, en fait. D'ailleurs, c'était lors d'un appel à projet de Pariculteur, où on a une start-up cycloponique, en fait, qui a répondu donc à cet appel à projet, et le bailleur social ICF La Sablière, qui a mis à disposition 3500 m² de parking sous des logements sociaux à Paris dans le 18e. La start-up a proposé justement de créer une ferme urbaine souterraine pour cultiver des endives, olives et certains types de champignons qui n'ont pas besoin finalement de lumière du jour. Et on voit là toutes les externalités positives de ce projet, parce qu'en fait, ces parkings, en fait, ils étaient abandonnés. Il y avait des problèmes de prostitution, des trafics de drogue. Et grâce finalement à cette start-up qui s'est installée, donc ça a créé évidemment, ça a généré de l'emploi. Ils vendent leurs produits en circuit court, également aux habitants, aux particuliers où ils font des livraisons à vélo. Et donc, ça anime aussi le quartier. Donc, on voit tous les bénéfices, finalement, environnementaux et sociétaux d'exploiter ces lieux qui étaient abandonnés.
Mmh. Bastien, on ne vous a pas encore entendu. On va faire une large part à votre projet également. Juste d'un mot, comment vous vous insérez avec Garage, ce projet, en quelques mots, décrivez-le nous.
Ben, en fait, je crois que sur tous ces enjeux, il y a plusieurs solutions pour y répondre. Et Garage peut faire partie d'une solution. Je crois que quand j'entends les chiffres sur le taux d'occupation, ben, c'est cette logique-là, en fait, ou en tout cas ce constat-là qu'on a pu faire il y a 5-6 ans maintenant. C'est-à-dire, il y a 5-6 ans, en fait, on se rendait compte qu'une entreprise qui payait 100% de son loyer et de ses charges liées à son bureau n'en récoltait que 15% de sa valeur au fond. Mmh. Pourquoi ? Parce que la nuit il ne s'y passe rien, le week-end il ne s'y passe rien, et puis sur des métiers, et on parle d'un constat avant Covid, sur des métiers techniques ou people business, on a au final un taux d'occupation de 70% sur la semaine puisqu'on est chez le client.
C'est-à-dire qu'on n'y va pas toujours.
On n'y va pas toujours, donc il y a des mètres carrés qui sont là et il y a bien quelqu'un qui les paye et pour autant qui n'en tire aucune valeur au fond. Mmh. Et cette logique-là nous a guidés, et à l'époque, donc Christophe Levive, qui est le fondateur de Garage, a décidé de créer une entreprise qui permet au bureau de devenir autre chose la nuit, les week-ends, et puis au fur et à mesure de la journée, selon l'usage nécessaire. Et c'est ce qui se passe à Garage, puisque dans ce lieu, on a 85% des mètres carrés qui peuvent changer d'usage selon l'heure de la journée ou le jour de la semaine.
On va y revenir dans un instant. Alors juste avant, autre piste après cette transformation, donc reconstruire la ville sur la ville. On a vu l'exemple des parkings, des friches sur lesquelles on peut bâtir, et donc ça représente des espaces quand même colossaux. On va parler hybridation avec vous, Fabrice Bonifay, avec ce bâtiment hybride à économie positive, le BHEP. D'où vient ce modèle et pouvez-vous nous l'expliquer ?
Alors en fait, à la sortie de la COP21, au niveau du groupe Bouygues, on s'est posé la question de comment réinventer nos modèles d'affaires, nos produits, nos solutions pour arrêter de faire semblant d'agir et d'aller véritablement à une décarbonation de nos solutions. Parce qu'en fait, le temps presse quand même sur ce sujet.
2015, la COP21.
2015. Donc, à cette époque-là, on a rassemblé un groupe de collaborateurs volontaires. Puis on leur a dit, voilà, donc le bâtiment, je ne vous fais pas la liste de toutes les externalités négatives associées à la construction classique, traditionnelle, les émissions de gaz à effet de serre. 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâtiment, 43% de l'énergie consommée. Tout ça, c'est des chiffres qui sont bien connus ici. Et on s'est dit, soit on continue d'améliorer la marge, mais continue le temps qui reste, ça ne va pas le faire, soit on fait une vraie rupture. Et la vraie rupture, ça a été de dire, on a fait un certain nombre de constats, on a parlé de la sous-occupation des espaces, mais il y a d'autres problèmes avec les bâtiments classiques d'aujourd'hui qu'on construit depuis des décennies. Et on s'est dit, et si on essayait de concevoir le bâtiment idéal qui répond à tous les enjeux ? Et est née l'idée du bâtiment hybride à économie positive qui a 6 caractéristiques principales. Alors, première caractéristique, on en a parlé beaucoup, on se dit, il y a tout un tas d'espaces dans un bâtiment tertiaire, mais aussi des bâtiments de logement, parce qu'on peut faire du BHEP avec du logement. Le tertiaire, c'est plus facile à comprendre, qu'on peut utiliser avec plusieurs types d'utilisateurs en fonction de moments de la journée, de la semaine, etc. Et il n'y a pas que l'auditorium, le parking, la salle polyvalente, le restaurant entreprise, le rooftop, il y a d'autres espaces encore qu'on peut mutualiser. Encore faut trouver le modèle d'affaires, encore faut trouver la personne, ou plutôt l'entreprise qui va animer tout ça, les problématiques juridiques, de porosité, de sécurité. Donc il y a un modèle à trouver, et Garage l'a trouvé, très bien, il y en a d'autres acteurs qui commencent à s'intéresser à ce sujet, dont Bouygues.
C'est-à-dire l'auditorium de Bouygues Construction, le siège, ça peut devenir une boîte de nuit
Pourquoi pas. Pourquoi pas ? Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Encore faut-il pouvoir donner les garanties à l'utilisateur principal ou au propriétaire du bâtiment, eh bien que quand le main user, l'utilisateur principal en aura à l'usage, que tout sera rentré dans l'ordre. Voilà. Mm-hmm. Et ça, c'est possible. Hein. C'est possible de le faire contractuellement. Et le numérique peut nous aider beaucoup aussi sur l'utilisation de ces différents espaces. Mais ça, c'est le premier levier du BHEP. Il y en a 5 autres. Le deuxième, c'est de se dire, les bâtiments aujourd'hui, ils vont devenir producteurs de flux. flux physique notamment. C'est-à-dire qu'en fait, Bouygues est l'inventeur des bâtiments à énergie positive il y a déjà près de 10 ans. Et avec la baisse continue du kilowattheure photovoltaïque, bon, bah, il est probable que les bâtiments vont être truffés de photovoltaïque, anciens ou nouveaux, dans les années qui viennent. Et cette énergie, dans le temps, on la revendait à l'opérateur. Vu les taux de rachat aujourd'hui, c'est plus rentable d'auto-consommer ce que l'on produit. Et souvent, et à certains moments de la journée, on va plus produire que ce qu'on va consommer. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces flux ? Bon, on va les revendre à ses voisins et ça fait une recette supplémentaire pour le bâtiment. Donc on avait déjà des recettes d'optimisation de surface, ouais. On va avoir une recette d'optimisation...
Donc un exemple, vous imaginez des panneaux photovoltaïques qui oui. chargeraient par exemple les véhicules des collaborateurs.
Par exemple.
Et si on a trop d'énergie, on pourrait charger
On peut revendre cette énergie au bâtiment voisin. Mm-hmm. Et si le bâtiment voisin achète son énergie à EDF 17 centimes le kilowattheure et qu'on lui vend 16 centimes, bah, il va dire bah, je prends le 1 centime. De, voilà. ouais. Donc ça c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est que les bâtiments, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux. Et aujourd'hui, on construit sans aucune projection de valorisation de ces matériaux à la fin d'une première vie du bâtiment. Parce qu'on sait très bien que le bâtiment, il est rénové à peu près 6 fois avant sa destruction. Et là, on se dit, bah, grâce à la maquette numérique, on va peut-être pouvoir standardiser un peu plus et on va peut-être pouvoir demain, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, récupérer certains matériaux, toute ou partie des matériaux, pour pouvoir, au lieu de les démolir les bâtiments en fin de vie, mais les démonter, récupérer les matériaux et pouvoir les réimplanter ailleurs. Alors, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue carbone, parce que toutes ces fabrications des matériaux, c'est beaucoup d'énergie grise. Donc, on parle des faux planchers, des chemins de câbles, des ferronneries, même certaines huisseries, etc. Et cette énergie grise, bah, au lieu de la gaspiller, on va pouvoir donc récupérer ces matériaux pour les réimplanter, faire travailler des artisans et remettre en place un circuit commercial pour ces matériaux de seconde vie.
D'accord, c'est du réemploi.
Finalement. C'est du réemploi et en plus, dans la nouvelle réglementation qui s'applique à nos métiers, la fameuse RE 2020, eh bien, tous ces matériaux de réemploi comptent pour zéro dans le bilan carbone et comme...
D'accord. L'objectif qu'ils ont déjà été installés.
Parce qu'ils ont déjà été installés. L'objectif, c'est décarboner. Ben, c'est très bien.
Effectivement, ce réemploi, c'est très important, surtout à une époque où là, on sent, il y a pénurie de matériaux, de matières premières. Ça va devenir de plus en plus cher. Donc, on a tout intérêt à utiliser l'existant.
Donc, l'idée, c'est de faire des bâtiments banque de matériaux.
D'accord.
Voilà. Avec même peut-être demain des fabricants de matériaux qui vont non plus nous vendre les matériaux, mais qui vont nous les louer. Et donc, le propriétaire du bâtiment va avoir un droit d'usage,
va payer. On va vous louer vos fils de cuivre pendant 20 ans et puis les récupérer au bout d'un moment.
Ben, pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Hein. C'est des modèles. On est en train de travailler avec l'ESSEC. On a passé un accord avec la grande école ESSEC là, pour travailler sur ces nouveaux modèles d'affaires.
D'accord.
Hein, où on a bien vu en Angleterre depuis des années, il y a une dissociation entre le foncier et le bâti. Et ça marche très bien. Pourquoi pas demain avoir une dissociation entre le bâtiment construit et les éléments constitutifs. C'est des modèles qui vont arriver, on est sûr que ça va arriver, compte tenu que, vous l'avez dit vous-même, augmentation du coût des matières premières, énorme, on n'a jamais connu ça depuis la fin de la guerre, puis aussi la nécessité, je le répète, d'avoir une utilisation plus frugale des ressources. Un autre levier de BHEP, c'est très important, c'est la convergence entre le bâtiment et la mobilité. Alors ça, c'est vraiment c'est un des enjeux pour notre métier.
Alors expliquez-nous.
Alors, pendant très très longtemps, les constructeurs n'avaient rien à faire, en fait, des allées et venues des gens du bâtiment vers l'extérieur. On mettait un parking en place et bon, on garait les voitures et basta. Et le parking était un centre de coût. Ça coûte très cher, un parking, à construire pour une rentabilité qui est zéro. Zéro. Avec l'arrivée des voitures électriques, ça vous a pas échappé qu'en 2035, a priori, il n'y aura plus que des voitures électriques, notamment dans les villes. Et donc 2035, c'est demain. Et donc, compte tenu du temps qu'il faut pour rénover les bâtiments, pour construire des neufs, bon, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Eh bien, les parkings des bâtiments du futur, parce qu'il y aura toujours des parkings, vont devenir des hubs de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures seront plus les voitures, les vélos cargo, les vélos électriques, les trottinettes, les scooters électriques, vont être de plus en plus partagés. Il y aura toujours des véhicules propriétaire. Mais il y aura de plus en plus de hubs où, un peu comme Autolib ou Vélib, au lieu que ce soit outdoor, ce sera indoor. Pourquoi ce sera indoor ? Parce que ces véhicules auront besoin de se recharger. Hein, se recharger, et ils vont se recharger non pas dans la rue, non pas dans les stations-service, mais se rechargeront dans les bâtiments. Donc on peut imaginer, et on va le faire chez Bouygues, qu'on ait demain des parkings qui soient des hubs de mobilité, c'est-à-dire qu'en fait, les gens viendront chercher un véhicule. Ils ne seront pas forcément des utilisateurs du bâtiment, mais ils seront riverains du bâtiment.
D'accord.
Ils viendront chercher des véhicules dans un parking de bâtiment et puis pourront le laisser à un autre endroit. Et on va proposer à des sociétés, ça commence à venir, eh bien de prendre à bail le parking, carrément, et de gérer le parking comme un centre de profit. Et je pense que ce sera ultra rentable demain. Il y a plusieurs grands opérateurs qui commencent à s'intéresser à ces sujets.
On connaissait le flex office, là où finalement on arrive dans le bureau, on se met un peu où on veut avec son ordinateur. Demain, on aura un flex car, on pourra prendre sa voiture comme on veut, changer.
Ce sera surtout un endroit où on pourra accéder à des devices de transport adapté à son besoin. On n'a pas de fret, on prend un vélo, si c'est pas loin. On a un peu de fret, on prend une voiture électrique, le cas échéant. Mais on évite de transporter 60 kilos de matière humaine dans 2,5 tonnes d'acier. Ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui à l'heure de la transition écologique. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on s'aperçoit qu'on réconcilie écologie et économie. C'est pour ça qu'on appelle le BHEP à économie positive. Parce que la mutualisation d'espace, monsieur dira, ça rapporte de l'argent parce qu'on optimise les espaces. Le fait de produire des flux physiques qu'on va pouvoir revendre à ses voisins, ça produit de l'argent aussi. Le fait d'optimiser son parking, d'en faire un centre de profit, ça produit de l'argent. Donc on voit bien que ces bâtiments, au-delà de leur intérêt écologique, c'est un intérêt économique. Économique très fort, à la fois pour les constructeurs et les exploitants. Et Bouygues va aller de plus en plus vers l'exploitation des bâtiments. C'est notre objectif à terme. Et c'est l'intérêt aussi des clients, c'est-à-dire de ceux qui vont être propriétaires de ces infrastructures, parce que ce sont des infrastructures qui seront plus rentables.
Bien sûr. Fabrice Bonifier, est-ce que c'est aujourd'hui un projet dans les cartons, ou c'est déjà actuel, c'est déjà mis en place sur certains bâtiments?
Alors, c'est un concept building. C'est un concept. Aujourd'hui, on a des projets qui ne cochent pas forcément toutes les cases, parce que je ne vous ai même pas encore tout dit. Entre la mutualisation, entre le bâtiment banque de matériaux, il n'y a pas de bâtiment qui coche toutes les cases encore qu'on a livré, qu'on pourrait montrer à des clients.
Par contre, mais on prend des petits bouts.
Voilà, il y a si on fait la somme de tout ce que je vous ai dit, on est capable de montrer des exemples. Alors, on espère bien dans les semaines qui viennent pouvoir vendre un BHEP périmètre complet, champ complet. C'est pas encore le cas, mais ça va venir parce que plus on l'explique à nos clients, plus ils commencent à se dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'on veut, parce que ça coche toutes les cases, c'est mieux d'un point de vue écologique, je répète, et ça nous permet de gagner plus d'argent.
Bien sûr, et ça, c'est évidemment, ça va attirer aussi les financiers. Il y a l'équation économique, bien évidemment, qui est importante. Virginia Landi, est-ce qu'on peut hybrider des bâtiments anciens? Est-ce que c'est réservé aux nouvelles constructions là? Est-ce qu'on est obligé de tout raser, de tout reconstruire avec ce nouveau modèle, ou on peut déjà adapter les bâtiments?
Non, bien sûr, on peut transformer des bâtiments existants. Et pour ça, je vais vous donner par exemple deux exemples. Notamment, il y a l'exemple de Morlan Mixité Capitale, dans Paris, qui est un ancien site administratif de la préfecture de Paris, qui a été réhabilité par Bouygues Bâtiments Île-de-France. Et donc, c'était 45 000 m² de bureaux. Et finalement, aujourd'hui, donc, c'était un seul usage. Donc, après la réhabilitation, on arrive à un bâtiment avec 11 usages. Donc, on garde 10 000 m² de bureaux, mais les 35 000 autres sont dédiés à d'autres usages. On va retrouver des logements, des commerces, un hôtel, un restaurant, une crèche, un laboratoire artistique, une auberge de jeunesse, un marché alimentaire, oui, un espace sportif, ainsi que des terrasses végétalisées et cultivées. Donc, on voit bien qu'on a, en tout cas, voilà, beaucoup d'usages. Et puis aussi, on a une tendance qui se développe de plus en plus, qui est aussi l'ouverture sur le quartier. Donc, avec la création d'une rue intérieure au sein de ce bâtiment, pour que ce soit davantage ouvert aux riverains. Autre exemple, un exemple emblématique, c'est la Poste du Louvre.
Alors là, on reste dans notre quartier. Je rappelle que le studio est en 2e arrondissement, on côté bien, donc à quelques... Voilà, centaines de mètres à vol d'oiseau. C'est vrai, la Poste du Louvre, bâtiment emblématique pour tous ceux, voilà, on s'en souvient, qui avaient des petits problèmes avec leur fin d'impôt à faire tamponner, le cachet de la Poste faisant foi. Ça a été fermé pendant quelques années et le chantier est enfin terminé.
Oui, effectivement, un chantier qui a duré 6 ans, donc qui a été aussi également réhabilité par Bouygues Bâtiments Île-de-France. L'architecte, c'est Dominique Perrault. Et donc là aussi, on voit bien qu'il a fallu transformer ce lieu, puisque en termes de tri postal, évidemment, avec le e-commerce, il y a beaucoup de... beaucoup moins de courriers. Et donc, on a deux tiers des espaces qui, aujourd'hui, sont justement occupés par des nouvelles activités. Donc là aussi, on va retrouver des commerces, un hôtel, un commissariat, une halte-garderie, des logements, un bar aussi avec un rooftop. Et c'est aussi cette ouverture...
Un restaurant étoilé.
Un restaurant, voilà, étoilé, tout à fait.
Pas encore testé, mais...
Donc,
on essaiera d'y aller.
Voilà, en tout cas, de nombreux usages. On retrouve également cette ouverture sur la ville avec la création de 5 passages couverts. Et donc, pour que ce soit les habitants de Paris ou les visiteurs puissent également en profiter.
Voilà, et là, on rajoute qu'évidemment, l'activité postale existe toujours hein, et elle est hyper moderne. Fabrice Bonifay, vous vouliez ajouter quelque chose justement sur cette hybridation des bâtiments ou cette rénovation ?
Non, mais au-delà des évidences sociologiques que Virginie vient de mentionner, il y a quand même cette contrainte carbone que je tiens à rappeler quand même. Notre objectif à tous, c'est le Bouygues Construction, comme les autres métiers du groupe Bouygues, ont pris des engagements très, très forts pour réduire l'empreinte carbone de nos activités et aussi réduire l'empreinte carbone de nos clients. Et on voit bien que l'hybridation et la meilleure intensité d'usage des infrastructures, c'est le premier levier qui est à notre disposition, au-delà même des matériaux bas carbone qu'on va utiliser. Donc, c'est une réponse aussi à l'urgence climatique. Faut quand même le dire clairement. On va construire moins, on le sait très bien. Construire moins, ça veut dire pas forcément densifier, mais intensifier l'usage. Il y a une grande différence entre la densification dont personne ne veut et l'intensification qui ne gênera personne. Donc c'est ça, il faut bien expliquer la différence. Et je pense que le fait d'avoir cette réponse dans l'hybridation, c'est une réponse qui va permettre de satisfaire l'ensemble des attentes des parties prenantes.
Voilà, piste de solution. Donc l'hybridation, on a vu la transformation, l'hybridation. On va s'intéresser maintenant à la chronotopie. Et là, nous allons ressortir nos manuels de grec, messieurs, dames. Chronotopie, Virginie, Chronos.
Oui, Chronos, le temps.
Topos.
Topos, le lieu. Donc, c'est vraiment une approche spatio-temporelle.
Moi, j'ai été surpris de voir ça. C'est vrai que c'est un concept que j'ai découvert donc, dans cet excellent ouvrage, on recite, hein, Espace hybride, ville en transition, numéro 9. Qu'est-ce que c'est la chronotopie en quelques mots ?
En quelques mots, en fait, on va pouvoir jouer sur les temporalités des espaces. Donc, si je prends un bâtiment lambda, on l'a dit, on peut hybrider les usages. Et donc, on a deux solutions. Soit on va faire cohabiter divers usages dans un même lieu. Donc, on va travailler, se divertir, se restaurer, se former, se loger. Soit on va alterner les usages et les publics au sein d'une même journée, par exemple. Et ça a été très bien illustré avec Garage.
Voilà, Bastien Lebêtre est là, donc directeur général de Garage. Vous nous avez dit un petit mot tout à l'heure de ce projet. C'est le fondateur, hein, c'est ça. Racontez-nous, on refait la genèse du projet Garage. Au début, c'était des bureaux, c'est bien.
Alors,
ça
au début, en fait, c'est une réflexion qui part des bureaux. C'est une réflexion sur les bureaux d'une société, sur un constat qui est un constat qu'on avait pu se faire sur une autre société en disant on paye finalement des loyers et on n'en exploite que très peu le bénéfice. Et puis en plus, on se rend compte que ça crée peu de richesse pour le monde qui nous entoure, pour la société, les voisins. Donc au fond, le soir, le week-end, ça ne sert à rien et il y a plein de moments où ça ne sert à rien.
Ouais, le lieu, on le resitue ?
Alors le lieu, c'est à Lille. Le premier garage est à Lille. C'est un ancien garage Peugeot qui a été garage, une ancienne concession pendant 70 ans, près de 16 000 m² à l'origine, en cœur de ville. Et finalement, on avait 4 000 m² qui était une dent creuse depuis 5-6 ans. Au cœur de ville, on avait c'était laissé vide, encore en état de garage. On a décidé de prendre la relève de ce bâtiment et puis de le mettre dans son temps. On peut pas en faire un bâtiment sur les normes actuelles. On peut pas le rendre plus moderne qu'il n'est, mais en revanche, on lui a fait passer un cap et puis on lui a permis pour sa future vie, pouvoir accueillir différentes activités. Alors nous, on est plutôt effectivement sur la deuxième catégorie, c'est-à-dire d'avoir des activités qui vont superposer, plutôt que d'avoir des activités qui vont vivre les unes à côté des autres.
On est clair, Bastien Lebêtre, que finalement, s'il n'y avait que des bureaux, l'équation n'était pas très rentable, même économiquement.
Elle n'était pas très rentable et pas très intéressante aussi. Ouais. Et quand on a une vision RSE aussi, on peut plus faire ça, en fait. On peut plus avoir viscéralement, on n'était pas en phase avec ça.
Responsabilité sociale et environnementale, on précise, ouais, hein, pour les acronymes. Donc, du coup, vous décidez de multiplier les espaces. Mm-hmm. Alors, expliquez-nous, parce que c'est à la façon un peu d'un théâtre, hein, qui va changer,
ouais,
les
ça.
Scènes, comme ça,
c'est
la scénographie.
Ça. Exactement. On s'est inspiré beaucoup du théâtre pour repenser ce bâtiment. Pour vous donner une image assez simple, en fait, on a quatre activités au sein de garage, c'est 4000 m2, il y a quatre activités. Il y a deux activités qui sont liées au B2B, donc des bureaux, des entreprises qui ont fait de garage leur siège d'entreprise, ou des équipes qui sont excubées pour travailler sur des projets. Un atelier de prototypage, j'ai des idées dans les bureaux, bah, je peux aller les prototyper en bas à l'atelier. Puis de l'autre côté, on a deux activités, on considère un peu plus B2C, le magasin et puis un restaurant. Et ces activités ont une particularité, non pas de vivre les unes côte à côte, mais en revanche, d'avoir à un moment une possibilité d'avoir un garage qui devient complètement un bureau, complètement restaurant, complètement un magasin, parce que le week-end, on n'a plus besoin de bureau, en fait. Enfin, c'est ça la logique qu'on applique au sein de garage. C'est du bon sens. Enfin, tout à l'heure, je trouve que j'aime bien cette expression, c'est clairement ça, c'est juste du bon sens. En fait.
Alors, j'ai plein de questions, évidemment. Déjà, comment on change les lieux, la configuration, c'est-à-dire comment on passe du bureau, voilà, à vendredi, on peut se dire que voilà, les salariés ou ceux qui travaillent sont partis. Ça se transforme en combien de temps, comment on le transforme en restaurant ou en magasin?
Alors, pour effectivement, c'est 5 ans de développement. Donc, je disais tout à l'heure que
l'idée... Faut l'anticiper, hein, comme
disait. Voilà, c'est exactement ça. L'idée est née il y a 7 ans. On a eu 5 ans de développement. Il y a beaucoup de freins à lever. Techniques, administratives, juridiques. Voilà, c'est beaucoup d'énergie. Puis, une fois qu'on arrive et qu'on peut, depuis maintenant, faire vivre Garage à Lille, ben, on se rend compte que la transformation est très simple. Elle se fait avec plusieurs points. C'est-à-dire une partie technique, technologique. Et aujourd'hui, on a fait le Covid, au fond, nous a beaucoup aidé, puisqu'il nous a permis d'accélérer sur la partie digitale. Et puis aussi sur, en fait, une autre manière de regarder un bureau. C'est-à-dire, quand on prend un bureau à garage, on se dit, mais comment faire pour que ce bureau puisse servir à autre chose? Puisse être un mobilier, une table de restaurant, un lieu de conférence. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde tous les mobiliers. D'accord. Et tout ce qui constitue la vie de garage, avec un regard qui est qui peut être double, triple dans les usages.
Gérard Loditi, vous êtes associé avec Link City à cette initiative qui devrait essaimer, on l'espère en tout cas, dans toute la France.
Voilà, nous sommes rencontrés avec le fondateur de Garage, on a tout de suite vu que nous avions des valeurs communes sur tout ce qui a été dit, hein, en matière d'urgence climatique, d'économie de la ressource. Et donc, nous avons pris le parti d'accompagner Garage dans son développement sur toute la France, dans un premier temps, voire même l'Europe, et avec les ambitions de Christophe Levif et de Bastien. Donc, nous sommes d'ores et déjà en recherche de nouveaux sites dans les villes principales de France pour implanter ce type de bâtiment. Et on voit que, plus on avance sur la réflexion de ce bâtiment, ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure également, c'est que ces bâtiments peuvent prendre des formes totalement différentes. Aujourd'hui, Lille, garage existe comme il est, mais demain à Bordeaux, peut prendre une autre forme avec des mixités d'usages différentes. Donc on a toute cette réflexion-là devant nous. La taille peut changer aussi. Le projet de Lille, c'est sur 4000 m2. Demain, on peut l'imaginer sur 8000, sur 10000 m2, ou au contraire, sur des surfaces plus petites. Donc on voit bien qu'on a un champ d'expérimentation très fort devant nous. Et Link City, moi j'ai souhaité que Link City soit un peu le fer de lance de l'intensification des usages dans le monde de l'immobilier. Aujourd'hui, ça bouleverse les pratiques immobilières. Ouais. Tout ce qui a été dit, encore une fois, nous oblige à penser la construction différemment, d'avoir une approche aussi sur l'usage complètement différente. Et par ce partenariat-là, Link City et Bouygues Construction incarnent cette volonté.
Ouais, Bastien, très étonnant sur donc la même parcelle, entre guillemets, on va avoir cuisine, restaurant, bureau, tout ça. Se coordonne parfaitement. Ça me fait penser un petit peu, pour une analogie avec le vivant, à la permaculture vis-à-vis de l'agriculture intensive. Donc sur une parcelle, on peut faire une seule chose, bon, avec un rendement faible. Et là, vous êtes dans la permaculture avec différents espaces. Économiquement, pour les coworkers, ça va être aussi intéressant. Est-ce que du coup, pour votre patron, évidemment, c'est moins cher, mais pour ceux qui sont là, c'est moins cher également?
Oui, tout à fait. Alors, si je prends la partie bureau, donc un des habitants, au final, de garage. Un habitant de garage sur la partie travail va payer en moyenne 33% de loyer en moins par rapport à un prix de marché. Parce qu'effectivement, le même mètre carré peut à un moment avoir plusieurs usages. Et de l'autre côté de la chaîne, parce qu'il faut bien un équilibre économique, de l'autre côté de la chaîne, les actionnaires vont avoir une meilleure rentabilité, puisque là aussi, on va cumuler sur le même mètre, donc une rentabilité augmentée de 15%. Donc, et c'est avec ces équilibres, on ne peut pas dissocier l'économique sur des projets de ce type, l'économique, et puis une vision ou un concept. Donc, c'est effectivement intéressant pour tous les clients ou toutes les parties prenantes. On prend plutôt comme ça de garage.
Sans oublier la dimension sociétale, durable, vous le disiez, c'est finalement un lieu au service de la cité, un lieu qui ne dort jamais.
Tout à fait. Ça faisait partie des premières réflexions. On était agacés de voir que notre bâtiment ne servait à rien sur pas mal de moments de sa vie. Bah là, en fait, on a trois dimensions. L'impact de garage, c'est trois dimensions. D'abord, il y a un impact sociétal, c'est-à-dire un bâtiment qui sert aussi la nuit, le week-end, qui sert à son quartier, qui sert à des habitants, des usagers. On a un impact social. Un garage, c'est un emploi tous les 45 mètres carrés. Donc, sur l'ensemble des activités, bureaux, restaurants, magasins, etc. Et puis, aussi, d'un point de vue environnemental, parce qu'effectivement, sur le même espace, on arrive à intégrer plusieurs usages. Et puis, un peu comme dans le prêt-à-porter, on a eu cette réflexion, ou ils ont eu cette réflexion il y a quelques années, en disant, on doit arrêter de toujours penser à produire de nouveaux vêtements, mais on doit aussi leur permettre une seconde vie, permettre d'être plus durable. Bah, c'est ce qu'on applique d'une certaine manière à ce bâtiment.
Virginie Alonzi, un bel exemple là de l'intensification des usages. Voilà, sur je crois que c'est à partir de quoi, de 3000 mètres carrés.
C'est ça.
On en fait 10 000 quoi finalement.
Avec 3800 mètres carrés, on fait 6000 mètres carrés de commerce. Voilà, c'est ça le ratio d'un garage et de celui de Lille.
Virginie, une des solutions, hein, l'économie de la ressource, l'intensification des usages, là on est en plein dedans avec cet exemple.
Ah oui, complètement, comme tout le monde l'a évoqué, c'est vrai qu'on a une urgence à agir, on a une décennie pour trouver des nouveaux modèles et inverser la tendance, et l'exemple de garage illustre bien ce qu'on peut mettre en œuvre.
Gérard,
oui, pour compléter. Oui, je voudrais rajouter. Je pense qu'on rentre dans une ère, ça y est, on est entré dans une ère nouvelle. On est nombreux maintenant à s'occuper de la transformation de la ville. Et plus exactement, même on se préoccupe de la santé de nos bâtiments ou de la vie de nos bâtiments. Et si on fait un parallèle, moi je trouve le parallèle qui peut être intéressant par rapport à notre propre vie d'humain. Quand on transforme un bâtiment de bureau en hôtel ou de bureau en logement, quand on le rénove, on offre une seconde vie au bâtiment. Mmh. En revanche, quand on parle de réversibilité ou de démontabilité, on prolonge l'espérance de vie d'un bâtiment. Et puis quand on parle d'hybridation, on lui offre la possibilité de mener une double vie. Bon, là, c'est le parallèle qui
double peut être vie, ou en tout cas bâtiment augmenté. Hein. Peut-être on sera augmenté demain, ça, on verra. Je ne sais pas si ça nous concernera. En tout cas, les derniers sujets, puisque le temps tourne, on parle justement, Gérard, de la réversibilité sur le neuf ou sur l'existant. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parlez-nous justement de cet immeuble à Lyon, Work One.
Alors, Lyon, effectivement, est un cas particulier où nous avons été amenés à réfléchir sur un bâtiment qui prenait place le long d'une autoroute A7 et qui demain serait un boulevard urbain apaisé. Donc, on a imaginé que cet immeuble de bureau pourrait, dans 25-30 ans, se transformer aisément en logement. Donc, on a, dès la conception, intégré tous les aspects qui feraient que cette surface de bureau deviendrait facilement un immeuble de logement. Donc, l'opération est livrée, elle est visitable et on a quelques caractéristiques évidentes quand on voit l'immeuble. Hein, c'est des grandes façades vitrées, il y a même des balcons qui pourront être utilisés à terme dans une opération de logement. Donc d'accord. Pour l'investisseur, bien évidemment, c'est tout à fait intéressant puisqu'il est propriétaire d'un immeuble et avec de faibles transformations, il pourra en faire un immeuble de logement demain.
Je me trompe ou c'est finalement dans la conception comme garage, en amont finalement, qu'il faut penser toute cette transformation ?
Là, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que sans avoir réfléchi sur les plans, ce qu'on devait mettre en œuvre pour transformer demain cet immeuble en logement, ce n'était pas possible. Mmh. Donc,
l'anticipation, c'est la clé. Virginie, vous avez aussi un sujet sur justement l'ancien siège Airbus à Suresnes, là aussi, qui est transformé lui, en logement étudiant.
Oui, tout à fait. Donc, on l'a vu, il est vraiment nécessaire aussi d'envisager les possibles mutations des bâtiments dès leur conception. Donc, de pouvoir concevoir des bâtiments de nouvelle génération pour être évolutif et réversible. Et donc, cet ancien siège d'Airbus, finalement, il va être transformé en logement étudiant pour compléter le campus, puisqu'il y a l'école de commerce Schema qui s'est installée sur les quais à Suresnes. Donc, c'est le bailleur social Villogia avec Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social qui développe ce projet pour justement donc transformer 270 logements étudiants. Et on parlait d'économie circulaire, et ce qui est intéressant, c'est dans ce projet aussi, c'est qu'avec il y a 85% des matériaux qui sont issus de la démolition qui vont être recyclés ou réutilisés justement dans les filières d'économie circulaire. Donc là, on voit aussi l'impact environnemental et sociétal que procure ce projet. Et j'en profite juste aussi pour citer un autre projet tout récent en fait d'habitat social et de WeWood qui va être de transformer un garage en logement. Donc ça c'est intéressant parce que la transformation.
Alors on avait le garage
c'est...
en bureau, on avait voilà. le garage là en logement.
Et donc okay. là ça fait aussi appel à de la surélévation et de la surélévation bois sur trois niveaux pour transformer ce garage en 63 logements et aussi d'avoir un commerce en rez-de-chaussée.
C'est où, pardon?
Il est dans Paris, je ne sais plus. Mais dans Paris.
D'accord. D'accord. Effectivement, il y a pas mal d'initiatives hein, qui se multiplient effectivement pour cette ville sur la ville. Et cette idée de réversibilité, c'est aussi une des pistes qu'on doit creuser.
Il faut qu'on puisse arriver à mixer tout ça. C'est en fait là, c'est pas l'un ou l'autre. Il faut arriver à faire tout en même temps. Donc, penser le bâtiment pour qu'il puisse avoir une deuxième vie, l'intensité d'usage, on peut cumuler, ça se cumule tout ça. Et 1+1+1+1, ça fera beaucoup plus que 3. Donc, c'est clair que pour les bâtiments neufs à construire, si on ne pense pas à ça, on fait une faute grave. Hein, il faut qu'on puisse gérer les actifs bâtimentaires comme les compagnies aériennes aujourd'hui gèrent leurs avions. L'obsession des compagnies aériennes, c'est que les avions soient en l'air et qu'ils soient pleins. C'est parce que de toute façon, là, ça coûte tellement cher à l'avion que si on ne pratique pas le yield management, bah, on perd rapidement de l'argent. Ouais. Bah, dans notre métier demain, en accompagnant nos clients, on va leur dire, voilà, on va vous construire un actif qui coûte quand même souvent quand même assez cher. Bon, ben on peut plus simplement se permettre de lui dire, écoutez, voilà, on va vous faire l'actif.
Il est plus monofonction.
Il peut plus être monofonctionnel. C'est même plus envisageable. Et d'ailleurs, on va même pousser pour que la fiscalité demain, si t'es tout seul comme utilisateur, on va demander est-ce que ça coûte plus cher. Voilà. Mmh. Si par contre tu partages tout ou partie de tes espaces. Alors, bien sûr, avec un système organisé, avec toutes les garanties qu'on doit pouvoir donner aux différents types d'utilisateurs, donc il y a une contribution sociétale qui est plus importante, ça crée plus d'emplois, ça permet d'utiliser moins de mètres carrés, donc tout ça, c'est du bon sens. Et là, on peut espérer qu'un jour, le législateur pense, effectivement, ce type d'ouvrage est plus participe au bien commun, parce que c'est ça qui est important. Nous, les constructeurs, on doit maintenant nous monter aussi en compétence sur des sujets qui n'étaient pas les nôtres avant. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et à l'initiative de Gérard, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de Bouygues Construction. Mais même plus loin, au-delà de Bouygues Construction, pour l'ensemble du groupe Bouygues. Et c'est aussi un nouveau moyen aussi de dialoguer avec nos clients pour leur apporter un surcroît de valeur, comme l'a très bien expliqué monsieur. Parce que tout ça, c'est pas simplement de la philanthropie. On peut faire le bien pour la planète tout en ayant une équation économique qui est réelle.
Voilà en tout cas plusieurs pistes pour transformer nos villes de demain. D'ailleurs, tiens, comment on va y vivre dans ces villes? Plusieurs scénarios ont été élaborés également. Ville évolue-t-il, ville en partage, ville autonome, c'est des scénarios de quoi? 2035, 2050? Vous avez imaginé?
Oui, ce sont des scénarios à 2030, mais c'est plus de la matière à réflexion et à discussion. Voilà, on ne va pas tendre vers une ville que évolutive, que partagée ou qu'autonome. Mais l'idée, c'est d'avoir justement de la matière à discussion pour penser la ville différemment.
En tout cas, on en sait un petit peu plus sur cette ville et cette hybridation des usages. Un grand merci à nos quatre experts. Virginie Alonzi, directrice prospective Bouygues Construction. Merci. Fabrice Bonifay, directeur développement durable et qualité sécurité environnement du groupe Bouygues. Gérard Ledetti, directeur général délégué de Link City France. Et Bastien Lebêtre, directeur général de Garage. On se dit à très bientôt pour une prochaine table ronde.
Espace hybride, ville en transition. Une émission en partenariat avec Bouygues Construction à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.